Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous. C'est parti, Brieux, on va passer une petite heure ensemble. Je suis ravi de passer du temps avec toi parce que je t'ai vu grandir chez Brigade avec différentes fonctions. Peut-être pour que tout le monde sache qui tu es, est-ce que tu peux nous donner ton état civil et puis un peu ton rôle aujourd'hui chez Brigade?
Ouais. Alors déjà, merci de me recevoir dans ton podcast, car ça me fait plaisir. Donc, je m'appelle Brieux, je suis marié, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants et un troisième qui arrive, que des garçons. Mon rôle chez Brigade, c'est CTO depuis presque deux ans maintenant. Donc le rôle, il est assez complet dans une scale-up. Je vais avoir la responsabilité de forcément construire l'équipe avec les différentes parties et trouver les bons experts aux bons endroits. Je vais avoir un rôle de transformer la stratégie globale de l'entreprise en roadmap opérationnel pour les différentes équipes. Et après, s'assurer que le run et une delivery de ce qu'on fait, aussi bien d'un point de vue infrastructure que produit, est à la hauteur du produit Brigade. Donc ça fait une équipe globalement d'une trentaine de personnes avec donc la tech produit et infra et depuis plus d'un mois maintenant une équipe data aussi. Où j'ai tout le scope data duquel je m'occupe et que j'essaie de faire grandir en ce moment. Dans le gros rôle qu'il y a aussi sur le poste de CTO chez Brigade, il y a apporter de la valeur transverse aux équipes grâce à la technologie. Et donc ça va être comment tu remontes de la donnée dans le CRM pour aider les sales. Ça va être comment t'intègres une ERP pour la finance. Ça va être comment tu fais du tracking pour le marketing pour comprendre l'efficacité des campagnes. Et aujourd'hui, c'est aussi un des grands centres de focus. C'est comment on est bien meilleur en opération et bien plus efficace grâce à la technologie et pour un petit peu grande personne.
Super. C'est un sujet vraiment qui est névralgique, en fait, d'avoir un CTO qui a un mindset bien sûr techno, mais surtout très business. On va revenir sur ton parcours chez Brigade parce que tu as eu le challenge de reprendre le rôle de Jean, un des cofondateurs. Et ça, c'est pas évident non plus de d'endosser ce costume, sachant que tu as un des cofondateurs qui devient, lui, côté produit, donc qui devient un de tes pairs. On va revenir là-dessus. Donc, peut-être juste pour comprendre un peu ton background et un peu ton parcours. Toi, t'as grandi où? Tu fais des études d'informatique. Pourquoi tu fais ça?
Alors moi, j'ai grandi dans les Yvelines.
Ouais.
Toute ma vie d'abord, ça y est, après 50 ans d'Yvelines.
D'accord.
Mon petit Breton, exactement. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un peu grandi avec l'explosion de la technologie. Si tu veux, chez nous, il y a eu le premier PC, tu sais, dans la maison où tu jouais à des petits jeux, des grosses disquettes. Nos pères, ils ramenaient des ordis, qu'on pouvait démonter, remonter, enfin, c'était hyper facile. Et je pense que l'amour de l'ingénierie et des systèmes complexes a commencé comme ça. Et après, à l'école, voilà, moi, j'étais pas un hyper grand fan de la partie académique classique, et donc je me suis tout de suite beaucoup plus dans les technologies. J'ai fait STI, ensuite j'ai fait un DUT GE2I, où j'ai fait de l'électronique, de l'informatique industrielle, et c'est après ça que je me suis retrouvé à Epitech, à faire de l'informatique pure. Et c'est vraiment la continuité, voilà, cet amour des systèmes complexes, c'est de trouver des solutions à des problèmes, qui est un petit peu voilà, le feu bien en fait, en général.
Et ouais, c'est Grisha qui m'a rappelé, parce que je pense que Jean me l'avait dit à un moment ou à un autre, qu'il y avait une mafia dans la mafia, donc vous avez démarré en fait Brigade avec toute une cinq personnes de d'Epitech. Comment c'est né ce projet? Toi, à ce moment-là, tu t'encadrais de ce que je comprends en fait
un
groupe d'étudiants.
Exactement. À ce moment-là, moi, j'étais donc le directeur pédagogique de tout le cycle supérieur d'Epitech Paris. Donc c'était en gros 1500 étudiants sur 4e, 5e année. Et j'ai rencontré Jean dans ce cadre-là. En fait, il faisait partie des étudiants qui s'encadraient en 4e année. Et j'avais créé à Epitech quelque chose qui permettait aux étudiants de valider une partie de leurs études en faisant de la création d'entreprise et pas nécessairement un stage conventionnel comme on peut l'imaginer dans nos études.
Ok.
Donc en fait, Jean, pour valider donc cette partie professionnelle des études avec Brigade, a dû pitcher Brigade devant un jury que je présidais pour être, entre guillemets, accepté et validé dans ce cadre-là. Donc c'est comme ça qu'on s'est connu avec Jean qu'on a commencé à lier un bon contact. Et en fait...
Et quand il pitche l'idée de Brigade à l'époque, toi, tu vois cet étudiant et tu te dis quoi?
Ah, je le dis incroyable parce qu'en fait, on se rend sûrement peut-être pas compte, mais la maturité que Jean avait pour monter une boîte à 22 ans était déjà éclatante à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il arrivait, tout était précis, ce qu'il connaît bien, c'est un gestionnaire de projet, on va faire ça, on va faire ça, voilà comment on va le faire. Et en fait, si tu veux, quand tu vois des tonnes de pitch, vous t'as des créations d'entreprise, c'est je vais me mettre entrepreneur et faire des missions. Et là, t'as quelqu'un qui arrive avec une boîte, un cofondateur, des ambitions. Tout de suite, ça ressortait du lot immédiatement.
Super. Donc là, tu donnes ton go.
Donc là, Hugo, évidemment, il lance la boîte, il commence à faire du projet. Je le revois, je pense, un an ou deux après. Et donc là, il a monté une équipe avec des jeunes de chez Epitel qui étaient dans les années d'après. Et en fait, il vient les faire passer en tant que maître de stage, donc il les accompagne pour
D'accord.
leur soutenance de fin d'études. Et donc là, on se revoit et on commence à discuter. Et chose ce faisant, il me propose un dev. Il me dit, écoute, j'ai besoin d'un manager pour gérer mon équipe technique. Est-ce que tu connais quelqu'un, etc. On discute du poste, etc. Je dis, bah, écoute, je connais personne, mais si jamais ça t'intéresse, moi, ça me plairait bien de faire ça. Et il me dit, ah bah ouais, go, on essaye. Et c'est parti comme ça, quoi.
D'accord.
En 2017, on est parti là-dessus.
D'accord. Donc tu l'as rejoint très tôt?
Je l'ai rejoint en février 2018, ouais, le temps de faire la transition de job.
Ok. Et là, c'est quoi ton rôle à ce moment-là?
Quand j'arrive, je suis Head of Engineering, donc c'est vraiment management opérationnel. Aujourd'hui, ce serait Engineering Manager Senior. C'est reprendre tout le management de l'équipe tech, m'assurer qu'on développe la marque employeur tech, je gère tout le recrutement, parce qu'évidemment, à ce moment-là, t'as pas des départements HR pour t'aider à recruter. Et recruter dans la tête, c'est très compliqué.
Ouais.
Donc toute cette partie-là, et puis après, c'est m'onboarder sur tout le delivery, comprendre le produit, les produits, la tech derrière, et faire en sorte qu'on soit capable de.
Donc tu retrouves une partie de tes étudiants?
Je retrouve mes étudiants, car enfin, 80% de l'équipe, ce sont des étudiants que j'ai connus à l'EPT.
D'accord. Donc vous êtes dans une zone de confort et de confiance tout de suite parce que finalement tu les connais, enfin tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît. Donc, ils sont très accueillants. Ils ont une petite question sur comment ça va changer leur relation, parce que tu sais, quand tu es directement dirigé par l'un des fondateurs, et comme tu disais, tu as le CTO, CPO, et OK, il y a quelqu'un qui va se mettre entre nous et le fondateur, comment ça va se passer? Donc là, j'ai le challenge des 100 premiers jours du manager, d'avoir le read et de faire comprendre la valeur ajoutée du manager pour qu'il trouve.
Et comment se dessine ton rôle avec Jean finalement parce que un ancien étudiant qui t'embauche,
Ouais.
la boîte à ce moment-là, il y a combien de personnes? Ça ressemble à quoi en termes? T'as une idée de où est-ce qu'on en est?
Ouais, quand j'arrive chez Brigade, il y a 35-40 personnes, quelque chose comme ça. Je suis le premier embauché, donc c'est pas la première boîte. Je suis le plus vieux de la boîte. Quand j'arrive, j'ai 30 ans, j'ai 6 mois de plus que Flo, comme ça.
Ouais.
Et donc j'arrive et je suis le premier recrutement qui est censé apporter une expertise.
Okay.
Donc déjà, pas mal de pression. Et voilà, j'arrive dans ce contexte-là avec le but de faire en direct.
Ok. Et donc tu parlais de tes 100 premiers jours, ça se passe bien a priori. Comment se dessine le rôle finalement à ce moment-là? Il y a une casquette. Enfin, Jean a deux casquettes. Il a la casquette produit, la casquette technique. Comment ça se passe dans votre partage du temps? Il te délègue de plus en plus d'enjeux autour de l'architecture qui fait qu'à un moment tu prends naturellement ta place ou il y a plutôt un deal explicite entre vous en disant voilà, écoute, dans les 24 prochains mois, il va y avoir des chaises musicales, j'aimerais bien que potentiellement tu prennes le relais. Comment ça se passe dans le jeu?
C'était la question, excuse-moi. Donc oui, avec Jean, au début, c'est assez conventionnel. Il est CTO, il décide de stratégie technique et des conférences d'enjeux de la boîte, et il me charge en gros de faire la courroie de transmission vers l'équipe technique et de s'assurer que ce qu'il a décidé comme stratégie technique est déroulé. Il n'y a pas du tout de plan en ce moment-là, en tout cas pas du tout dans ma tête, de comment ça va évoluer. Pour moi, le jeu, c'est montrer que opérationnellement, je suis capable de manager une équipe technique. Et ça, c'est le premier enjeu. Au fil du temps, avec l'équipe qui grossit et le rôle de CTO, il est quand même très large, on se rend compte que on a des experts qui sont de très haut niveau, qui commencent à prendre vraiment une grosse prise de décision sur la manière dont les choses sont pilotées. On se dit, OK, on va essayer de faire l'inverse, on va essayer d'avoir des experts qui, avec les enjeux de la boîte, nous proposent des sujets techniques sur lesquels nous, après, on va créer la roadmap avec vos concepts. Moi, j'essaie d'inverser un petit peu le sens qu'il y avait au début. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une fois que des équipes de gens très intelligents ont des objectifs très clairs, et ben ils sont tout à fait capables de faire des propositions pertinentes. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait les grands changements au niveau de l'architecture, au niveau de l'équipe, et c'est à ce moment-là que je passe VP.
Ok, et donc là, on est avant ou après le premier confinement? C'est quoi le...
Ouais, à ce moment-là, c'est fin décembre. On a commencé donc du coup toutes les refontes de l'architecture fin 2019 et là comme il arrive avec tout ce qui se fait.
Ouais. Alors on a échangé avec Grisha sur un peu cette période un peu incroyable où vous avez décidé de partir d'une clean sheet et de se dire on met tout le code à la poubelle et on recommence from scratch. Moi j'aimerais avoir ton point de vue plutôt d'un point de vue manager et enjeu business. Toi, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes finalement à Jean et toi pour aller dans ce choix-là? Est-ce que vous avez conscience que vous allez avoir beaucoup plus de temps pour le faire et en vous disant bah voilà en fait on a cette dette qui est pending et en fait c'est parti on le fait. J'aimerais bien comprendre en fait ce qui s'est passé.
Ouais. Alors en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment le sentiment d'opportunité. Parce que comme tu le sais, puisque tu étais avec nous à ce moment-là, du jour au lendemain, tu as 80% du chiffre d'affaires qui s'arrête avec le premier confinement, l'activité est assez basse. Et donc nous, on a commencé déjà toute la partie étude de comment on va faire les choses. Et en fait, l'opportunité, c'est on se dit, OK, on est dans une situation qui est pas agréable pour la boîte, clairement, mais c'est l'occasion pour nous de faire des changements de fond structurels qui vont avoir un impact énorme pour la croissance et la stabilité de la boîte après, avec un risque qui est quasiment inexistant. Parce que du coup, on a ce sujet, il n'y a quasiment pas d'activité sur la plateforme, et ça nous permet, nous, de faire tout le changement d'architecture sans prendre quasiment aucun risque. Donc en fait, on se dit, on est dans une mauvaise situation, profitons-en pour faire ces changements-là sans que ça ait trop d'impact.
Ce qui m'avait surpris avec l'échange de Grisha, c'est le niveau d'autonomie que vous avez donné finalement à votre équipe pour essayer de, un, définir le périmètre. J'imagine que vous l'avez challengé à un moment ou à un autre. Et toute cette partie finalement de commencer par la facturation et le paiement, j'ai trouvé ça vachement malin. Mais pourquoi ils ont attaqué? C'est quoi? Est-ce que c'est de manière empirique? Vous avez dit c'est là où c'est le plus dur, donc si on y arrive là, le reste sera facile.
C'est ça, et en fait, si tu veux, il y avait déjà dans la legacy du projet, c'était déjà des services qui avaient été un petit peu isolés du monolithe, et donc c'était aussi ce qui avait plus facile à faire dans un premier temps.
Ouais.
Il y avait beaucoup moins de couplage fonctionnel que sur les autres parties du monolithe, et donc en fait, c'était parfait pour faire une première preuve. Mais j'en avais parlé sur un podcast de cette migration, et en fait, ce qui a changé, c'est qu'on a beaucoup challengé, et je pense que Jean et moi, on aurait aussi aimé avoir des livraisons de tête un petit peu plus bout par bout, etc. En fait, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait tellement de chevêtrements qu'à un moment donné, il fallait faire ce qu'on appelle une deep one prod, qui est pas du tout recommandé. Je ne recommande à aucun auditeur de faire ce genre de choses. Mais, en gros, voilà, tu éteins ta version qui tourne, tu mets la nouvelle à côté et tu moniteurs comme un fou pour être sûr que tout se passe
Et
bien.
comment tu migres le tout l'un vers l'autre? Tu migres pas en fait. Je sais pas, la base user, la base de données.
Tu fais
Ah
toutes
oui.
tes migrations et après, c'est le trafic ou tout tes calls qui va sur ma nouvelle hache.
Ah ouais.
Exactement. Et en fait, ça s'est super bien passé. On a fait ça sur un week-end. Il y a eu zéro accident. Il y a eu zéro rollback. Et donc, c'est aussi ça qui fait, je pense, la force de cette équipe. C'est qu'on a des gens très talentueux à qui on a fait confiance et qui ont eu la capacité de s'exprimer. Et en fait, ça se passe. Enfin, c'est super bien passé. Ils ont été brillants sur ce point.
Et ça, tu penses que c'est un de tes wins qui fait qu'à un moment, on t'a fait encore plus confiance pour prendre un rôle encore plus important?
Ouais, que je pense qu'en fait, ce qui est très important dans des rôles structurants comme des rôles C-level, c'est la capacité, si tu veux, quand tu passes du manager au l'exécutif, d'avoir montré que tu es capable de gérer toutes les situations, que les problèmes restent à ton niveau et ne sont pas systématiquement escaladés. Et en fait, je pense que le Jean-Marie Flo, il savait très bien quand il m'a proposé le poste de CTO, que un, le run de l'équipe, je le gérais déjà depuis un bon moment avec la direction de Jean d'un point de vue strat, mais que sur la partie se retrouver après face à des arbitres ou face à un commit, ce serait pas un problème pour moi et que ça permettrait de faire de la continuité et ça permettait à Jean de se focus sur la partie produit sur laquelle il voulait mettre un gros focus. Voilà, une fois qu'on avait fait cette migration avec une marche plus propre qui nous permettrait de scaler techniquement à l'infini, aujourd'hui c'est encore un énorme levier de vélocité. Je pense que Jean il était hyper rassuré sur le fait de me confier les deux, on se connaissait bien et on avait ensemble dans les gros, oui.
Mais c'est vrai que à l'époque, au board, on avait cette interrogation de pourquoi ce move, pourquoi est-ce que Jean, finalement, il décidait d'aller côté produit. On avait des vraies interrogations sur comment on arrivait à sécuriser le périmètre technique. Quand on t'a vu arriver, de manière très calme, très posée. On s'est dit, bon, bah, il a l'air d'être accountable de ce qu'il fait. Et puis finalement, effectivement, tu l'as dit, c'était hyper naturel, quoi. Il n'y a pas eu de, j'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de poste, en fait. Tu vois, c'était, je sais pas si c'est voulu ou pas de la part de gens, mais ça s'est fait de manière complètement naturelle, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a, si, bah, il y a eu un travail de Jean déjà de préparation avec toutes ces années de collaboration qu'on a eu, mais Jean, c'est un très bon manager et c'est un très bon leader des personnes. Donc, il savait aussi que lui, il avait besoin de focus sur le produit et de faire en sorte que ça marche super bien. Et moi, quand je réussis, c'est, bah, que j'ai la place pour m'exprimer, pour faire un petit peu avec ma sauce maintenant, enfin, avec ma touche, quoi. Donc, non, ça a été un travail qu'on a fait sur plusieurs années, mais c'est aussi un grand parti du effectivement.
Et par rapport au reste de l'équipe, je pense aux autres C-level, quand on te donne cette casquette, qu'est-ce que ça change d'un point de vue fonctionnement avec, je sais pas, la partie commerciale, la partie produit? Donc finalement, t'as un peering avec Jean sur des sujets qui sont à ton même niveau, il est plus hiérarchiquement au-dessus de toi. Toi, tu reportes directement à Flo. Comment ça marche d'un point de vue purement organisationnel?
Bah, d'un point de vue relationnel, j'ai du coup forcément, comme tu le dis, un niveau d'échange avec les C-levels qui sont différents. Et là, j'essaye tout de suite de leur montrer que le but du jeu, en étant focus sur la partie tech, c'est d'aller leur apporter de la valeur et d'aider leurs équipes à être meilleures. En fait, je prends cet angle-là dès le début pour leur montrer que le fait de faire un focus aura de la valeur pour eux. Eux, je m'en sers de mentor parce que c'est des gens qui sont là dans le C-level depuis longtemps. Tu connais Nico qui avait un parcours hyper intéressant. Je me dis, OK, comment je me nourris de ces personnes-là? Et en vrai, voilà, j'ai été super bien accueilli et on a tout de suite créé des synergies qui peut-être n'existaient pas avant par manque de temps quand tu as un gros scope et qui ont permis d'apporter de la valeur très rapidement.
Je suis curieux de comprendre comment tu as fait pour comment tu fais sur les enjeux plus business. C'est-à-dire que quand tu prends cette casquette, finalement, tu es encore plus regardé d'un point de vue efficience, comment ton business est efficace en fait. Et comment la techno permet, tu l'as dit en intro, comment la techno permet d'être beaucoup plus efficace sur tous les sujets. L'automation du marketing, c'en est un, mais tu peux être sur tout le funnel de sales, tu peux le faire sur tellement de choses que avoir cet ADN sur l'impact de ce que tu fais sur les chiffres, comment tu as pris cette mesure-là et est-ce que tu as essayé de faire tes devoirs aussi d'un point de vue là aussi plus business sur la vélocité de la boîte, notamment au moment du fundraising, comment tu as contribué et comment tu as grandi là-dessus?
En fait, on a l'avantage, je pense, quand on a un mindset un peu tech ou ingénieur, c'est de pouvoir comprendre comment ça fonctionne derrière. Et je pense que c'est juste le même principe, mais appliqué aux autres métiers. C'est-à-dire que quand tu fais les résultats qu'on fait chez Brigade et tu te dis, OK, grâce à des commerciaux, tu fais vent d'activation qui vont faire tant de choses, et tu te dis, OK, grâce à la technologie, si je peux rendre les gens 20% meilleurs, bah, à la fin de la chaîne, tu vas avoir 20% d'amélioration, même peut-être plus, tu vas avoir des flux et tout ça. Et donc, du coup, c'est, OK, si je veux pouvoir faire en sorte que ça marche, il faut que j'aille comprendre le métier de chaque personne, que je parle son langage et ensuite que je lui amène les outils technologiques ou les données pour lui dire, OK, si je fais ça, voilà ce que tu pourras faire demain, voilà comment tu seras meilleur, voilà comment on a plus haut, tout ça. Donc, je pense que c'est ça la clé pour être un CTO qui apporte de la valeur de manière transverse. C'est vraiment de se mettre à la place des gens, pas de leur dire, regarde, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est d'aller les chercher là où ils sont peu. Et de leur montrer tout ce qu'eux vont pouvoir faire de mieux, que ça soit en leur enlevant du temps avec la suppression de tâches manuelles ou justement avec de l'apport de données pour avoir, je sais pas moi, tu vois, des leads beaucoup mieux triés. Donc quand t'appelles des leads, bah tu sais que t'as beaucoup plus de chances de faire une activation ou écrire de la TMB, ça. Donc je pense que c'est ça qui est vraiment essentiel et j'ai très vite compris parce qu'en fait au moment de préparer la veille, du coup je visite un petit peu mon réseau et j'essaie de faire des calls avec le maximum de CTO qu'on fait dans la veille. Et donc, je fais entre 10 et 15 interviews de CTO pour faire des process de. Et donc, je comprends assez rapidement que sur la partie VC, on va rarement dans le fond de l'ingénierie, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Par contre, de montrer les effets bénéfiques de la tech sur business, ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence et qui peut être essentiel. Donc, c'est vraiment dans ce mindset-là que je me suis mis dans le process de V, c'est faire comprendre à des investisseurs, qui sont en général des buyers assez financiers, que avec la tech, bah, vous pouvez prendre la marge opportune et se dire on va aller plus loin là, c'est ça.
Cool. Sur cette toujours cette partie peering avec d'autres CTO, Comment toi, tu te nourris d'expérience? Je sais que Jean avait été à un moment à l'initiative d'un truc qui s'appelait CTO Tech for je sais pas quoi. Ça te parle ce truc-là,
Techcraft?
TechRoft, ouais,
Ouais.
avec le CTO de Blabla.
Oui, exactement.
Comment s'appelle-t-il? Francis Napez. Toi, tu fais quoi pour te challenger sur ce type de volet? Est-ce que t'es network comme Jean ou t'as d'autres secrets?
Il m'a beaucoup appris de choses là-dessus. Il est vraiment entièrement en réseau. Lui, il est toujours là au board de ce think tank, TechFrost. Moi, je travaille dans le comité de contenu. Et donc, c'est toujours essayer par ces communautés-là d'avoir de l'échange avec des pairs. Et après, c'est par les réseaux. On a des réseaux avec des agences de recrutement, des choses comme ça. On connaît des gens qui sont bien connectés. Ou alors, ça peut être des boîtes. Tu vois, via Serena, on avait fait une demi-journée avec la tech et le produit de Evaneos. On les avait invités et c'est OK, quels sont vos enjeux, vos challenges, comment vous faites et après, nous, comment on fait. Donc, en fait, la communauté des startups, surtout dans la tech, vu que tu es souvent un peu le CTO ou le tech leader, tu te retrouves un peu seul face à ces équipes et ces problèmes. Il y a une communauté qui est hyper ouverte, c'est hyper facile de discuter avec les gens et on a tous envie de partager les uns les autres pour ces. Donc, ça, c'est vraiment pour moi un poids qui est hyper important. Et j'ai toujours eu cette culture de trouver des mentors, trouver des gens qui ont fait ce que je dois faire, pas découvrir, viens me prendre tout le départ, quoi, juste pour hacker un peu le truc et dire ok, je vais aller prendre 3-4 CTO qui sont de CRC et je vais leur dire comment vous êtes arrivé là et je vais essayer de prendre toute leur sagesse pour aller plus vite.
Cool. Sur la partie talent, on parlait tout à l'heure de la mafia Epitech. Donc, finalement, Brigade a eu la chance de commencer Day One avec 4-5 ingénieurs de l'Epitech qui permet de kicker le produit de manière assez importante. Comment toi, tu as fait grandir l'équipe par la suite en termes de recrutement? Est-ce que tu as continué à puiser dans ce vivier? Est-ce que tu as allé chercher d'autres compétences? Là, tu attaques la data. Est-ce que tu cherches des profils plus ingénieurs, plus analytiques? Comment tu construis ta Dream Team Tech?
Ouais. Alors pour moi, la Dream Team, ça commence toujours par trouver l'expert de la verticale. Parce qu'en fait, c'est cette personne-là qui va te permettre de créer les roadmaps et de délivrer la tech dans le bon sens par rapport à ce que tu vas faire. Et donc ça, c'est vraiment pour étudier. Et c'est cette personne-là qui va te permettre ensuite d'attirer des gens qui ont un haut potentiel aussi. Tu vois, quand tu as un Thibaut qui est core maintainer de React Native, qui a été responsable des dernières releases de React Native, qui bosse avec Microsoft et Facebook. Quand tu as des gens en entretien et tu leur dis si tu veux apprendre à faire du dev UI sur React Native, voilà avec qui tu as bossé, ça fait la
Ça sera. OK.
différence. C'est ça. Et donc, du coup, dans un marché qui est hyper tendu, ça a beaucoup. Pour répondre à la question, au début, c'est forcément beaucoup appuyé sur notre réseau Epitech,
Ouais.
parce que moi j'ai travaillé, parce qu'on a fait cette école et parce que c'est beaucoup plus
Et
simple.
tu as continué à faire vivre les relations dans le temps
Absolument,
en me
absolument.
donnant des cours? Comment tu as fait ça?
Non, alors c'est on a fait des interventions, on a organisé des événements, tu vois, récemment on a accueilli plein d'étudiants de troisième année à Paris qui justement peuvent commencer un projet de fin d'études et on leur a dit ok, vous venez sur un rush de 48 heures et une fois que vous sortez de là, vous aurez tout votre infra pour faire vos projets sur les 2 prochaines années. Donc c'est des choses comme ça. On a eu un recrutement, tu vois, par exemple, on a eu aussi pas mal de chance. C'est un des chefs de ce qu'on appelle le Labastec, qui est en gros le laboratoire des élèves qui apprennent aux étudiants. Et peut-être des étudiants qui apprennent aux étudiants inférieurs. Et donc, voilà, lui, il avait la visibilité de tous les meilleurs talents sur les 6 prochaines années qui allaient sortir d'Epitech. Et donc, on a un petit peu hacké le système pour avoir des relations personnelles avec des gens à briller. Voilà. Et donc, ça, c'est là-dessus. On s'est pas mal appuyé au début. Et après, donc, on a essayé de beaucoup ouvrir parce que c'est important d'avoir des gens qui pensent pas de la même manière. C'est important d'avoir de la diversité dans les profils, que ça soit d'école, de milieux sociaux, de tout. Et donc, on s'est rendu compte que sur la partie front, on a eu beaucoup de reconversions. On a beaucoup de gens qui viennent, pas du tout du milieu de l'informatique, mais dans un premier temps. J'ai un ancien manager de mécanicien d'hélicoptère de forces spéciales qui avait fait Saint-Cyr, qui maintenant est Defront. J'ai un ancien forgeron qui maintenant est Defront. J'ai un ancien preneur de son sur Plus belle la vie qui est maintenant Defront. Enfin, là, on a vraiment une équipe hyper autant et des
Mais les, me
backgrounds
les mecs se
hyper
sont
intéressants.
formés chez Brigade ou en amont, ils avaient déjà...
Alors, tu en as donc, des backgrounds avant, mais sinon, il y en a beaucoup qui ont fait des formations courtes.
OK.
Voilà, si le wagon,
Ah ouais?
club ou des choses comme ça. Et alors, ça prend beaucoup de temps parce que je pense que tu vois beaucoup de gens en entretien, mais tu peux trouver des
Des
personnes qui
pépites.
sont, tu peux trouver des pépites dedans. Donc c'est hyper intéressant. Et là, comme tu le disais, sur la partie de data, on a encore des profils complètement différents, avec des gens beaucoup plus ingénieurs, ou enfin, des profils beaucoup plus académiques. Tu vois, là, notre premier data scientist, il a un profil, un background, économétrie, data science, etc. Donc, vraiment pas du tout la même philosophie technique.
Et comment tu arrives à faire bosser tous ces gens ensemble, sachant que bon, ils vont tous avoir des sensibilités différentes? Est-ce que vous êtes drivé par en termes de méthode, vous avez des OKR par quarter, par année? Ça ressemble à quoi une semaine ou un quarter dans l'équipe tech? J'aimerais bien savoir comment on fait ça.
Ouais, donc comme tu dis, on a des OKR qui sont, alors les objectifs sont fixés à 6 mois et les key results on fait maintenant tous les 3 mois. Et donc du coup maintenant avec Richard et des filles, on prend les key results qu'on veut impacter sur un quarter et avec les équipes, on crée les roll-up techniques. On s'interface après avec les autres équipes. Si jamais on a des projets qui peuvent mener en commun, donc voilà la partie transversalisée. Mais après, le but du jeu, c'est ça, tu vois, on entre plein dedans, c'est définir les projets qu'on peut faire qui vont impacter les key results. Et afin de, on a un système de priorisation, que ça soit au niveau du produit ou au niveau de chantier technique. Et là, pareil, on est en train de faire la même chose sur la partie data. On oriente tous les projets pour qu'ils impactent ces objectifs de boîte au global.
Tu parlais de différents scopes de responsabilité en intro. Tu parlais du mobile, de l'architecture, de la data, le front, le back. Tous ces gens-là, il y a des personnes in charge, il y a des VP qui ont cette casquette-là. Comment tu bosses avec eux au quotidien, par quarter? Est-ce qu'il y a une espèce de comité de direction tech? Ouais. Comment d'un point de vue très opérationnel?
Ouais. C'est ça. C'est ce que je disais. On a un leader sur chaque verticale. Ouais. Avoir un lead back. On a deux lead front, une sur la partie mobile et une sur la partie web.
Ça, c'est des direct reports?
Ça, ce sont des direct reports en partie.
Okay.
Il y en a un qui reporte à Grisha sur la partie back. Grisha, il a aussi le lead data engineering qui lui reporte. On s'est partagé les leads avec Grisha.
Okay.
En direct report. Et on a exactement un conseil technique, qu'on fait une fois par semaine, où t'as les membres permanents. Et donc, c'est vraiment, c'est overview de tous les problèmes transverses, qu'on peut avoir d'un point de vue technique, comme dans les challenges. Et après, tu peux avoir des points spécifiques. Si t'as un problème alpha, tu fais venir le lead DevOps. S'il y a des sujets sur la partie data, maintenant, on a pareil, un outil sur la partie data qui est spécifique. Et donc voilà, c'est chaque semaine, on se refixe les priorités de comment on est dans ce qu'on veut faire, jusqu'où on veut aller cette semaine. Et après, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un lundi où on remet tout le monde dans la morale et après, qu'il y ait toutes les informations à disposition pour pouvoir délivrer la résolution.
Très clair. Bon, comment c'est compatible avec une vie familiale riche, deux garçons et un troisième dans le pipe? Comment tu partages ta journée? Tu bosses le soir, c'est très intense. Comment tu gères?
Ouais, c'est assez difficile. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre ses pauses. Donc, en général, je suis dans mes premiers arrivés chez Wagab, 8h30, je suis au repos. C'est comme ça, je suis frais et dispo et je peux take un peu de travail tout seul. Et après, essayer de rentrer pas trop tard pour s'occuper des enfants et finir de bosser à la maison pour tout ce qui est justement focus et production de documents, de réflexion, d'études, etc. Mais c'est un vrai challenge. Je pense qu'aujourd'hui, on est bien accompagné chez Brigade là-dessus. On a de la chance. On est des boîtes, tu sais, qui avaient signé le mois de congé second parent avant que ça soit une loi. On a vraiment un environnement dans lequel on peut tous les gens à s'épanouir d'abord. Et après, je pense que quand on est, quand t'es comme moi, pour la motivation, ça vient de moi-même. J'ai mon moteur de motivation à moi et ce que ça peut faire aussi.
Et dans tes équipes, là, j'imagine que tu dois avoir aussi des papas et des mamans qui deviennent papa et maman pendant cette période Brigade. Comment tu les accompagnes? C'est quand même des périodes de vie très intenses entre 25 et 35 ans. On passe beaucoup de temps au boulot dans des boîtes qui grossissent. Donc, on change tous de vie sur plein de sujets. Comment le setup, c'est drivé par les résultats? C'est quoi l'ADN? L'ADN du management.
Ouais, je pense qu'encore une fois, c'est essentiellement lié aux qualités du management qu'on a pris chez Regard. Quand je suis arrivé avec Jean, c'était tout de suite très clair qu'on voulait avoir une séparation entre le management et l'équipe technique et que le management, c'était quand tu fais en sorte que t'aies des personnes qui soient dans le meilleur environnement possible pour pouvoir délivrer la meilleure performance, s'épanouir et se voir à long terme. Comme tu l'as vu au cours de ces différentes années, on a un turnover qui est tout type dans l'équipe technique.
Ouais.
On a vraiment cette chance d'avoir des gens qui sont là depuis le début du projet, depuis 7 ans, et ça compte beaucoup. Et donc en fait, on a un vrai travail qui est fait sur la partie management, sur connaître les gens de l'équipe et justement connaître leur phase de vie. Et on sait qu'il y a des gens, eh ben tu vas peut-être avoir un enfant, tu vas peut-être te marier, tu vas peut-être avoir un décès dans ta famille. Et en fait, c'est avoir cette qualité managériale de dire, à partir du moment où tu as un événement de la vie perso qui prend le pas, c'est l'événement de la vie perso qui compte. Pour le reste, tu t'en fais pas. On a une équipe qui est solidaire. On compensera ce qu'il y a à compenser s'il faut. Prends le temps de faire ce que tu as à faire, que ce soit un événement heureux ou parfois un peu malheureux. Et on t'accompagne là-dessus. Et quand tu reviens, on reprend tout là où on était, il y a pas de souci. C'est vraiment hyper important. Je pense que c'est ce qui a beaucoup joué dans la fidélisation aussi des équipes. C'est d'avoir ce management compréhensif qui est hyper centré sur l'humain.
Ça fait beaucoup de sens. Et d'ailleurs, dans l'équipe technique, vous bossez, enfin, dans l'équipe tech au sens large. Est-ce qu'il y a beaucoup de remote? C'est quoi la répartition, géographique des, comment, est-ce que c'est une fonction en général qui est plus en demande que la moyenne?
Ouais.
Parce qu'en fait, puisque tout est logué, la gestion de projet est quand même très structurée sur les projets informatiques, dans son ensemble. Comment toi tu gères, comment c'est quoi ta vision du truc toi?
Alors nous, on a toujours été un peu à contre-sens entre guillemets de tout le monde là-dessus. On n'a jamais été des grands fans du full remote. On l'a subi pendant le Covid, je pense qu'on l'a apprécié. Encore une fois, on a une équipe avec une ADN très Epitech, et Epitech, c'est t'es à l'école et tu fais des projets en groupe. Et en fait, nous, on a cette vision de un, la vélocité, de la créativité, et du être ensemble, qui est assez office first. Et donc, c'est vrai qu'on a la plupart des gens qui sont en région parisienne. Ceux qui sont pas en région parisienne, en fait, c'est des gens qui étaient au bureau et qui, pour des raisons, tu vois, des chemins de vie différents, ont dû partir. Et on a dit, non, on continue de bosser ensemble. Donc, j'ai un développeur qui est parti à Marseille, pour des raisons de famille. J'ai un développeur qui est parti en Allemagne, pareil pour des raisons perso, et on s'est dit, OK, on fera ce qu'il faut pour que ça fonctionne dans ce cadre-là. Mais on a toujours été un peu malheureux, j'ai l'impression, dans les deux sens, parce que l'équipe leur manquait, et lui, il nous manquait aussi. Et donc, on essaie de les faire venir de temps en temps. Mais nous, on a vraiment cet ADN de, on est plus efficace et ensemble quand on est ensemble. Le remote, on est très open dessus. C'est vraiment si t'en as besoin ou envie. Il n'y a pas de limitation autant que ça sur le remote, mais vraiment, non, traîne pas tout ça. C'est j'ai une livraison, je dois arriver à tel endroit pour mon week-end, je vais y aller 2 jours avant, moi, je vais faire du remote. C'est pratico-pratique, mais c'est pas un goût spécial. Et quand t'as une équipe, tu vois, qui se monte, je pense une startup avec des gens assez jeunes. En plus, moi, je pense personnellement que le remote, c'est pas fait pour tout le monde. Faut avoir une certaine maturité, faut avoir des compétences. Et donc, on a en plus pas vraiment eu beaucoup de personnes avec un profil hyper mature, drivé, très très senior, qui est capable de se gérer tout seul. Il y a toujours eu beaucoup d'accompagnement, de management, d'organisation avec des gens assez jeunes. Et donc, je pense pas que c'était un modèle, tu vois, le tout remote qui était forcément pour nous. Donc voilà, nous, on est comme moi, tout en général, on essaie d'être dans le deal. Donc, de l'hybride, quand t'as besoin de faire du remote, tu fais du remote. Et sinon, quand dans le...
Très clair. Si on regarde un peu le futur, là, sur la dernière partie, moi, j'aimerais bien creuser un peu les challenges à venir. Tu as parlé de la data. Si on identifie les deux, trois gros sujets qui se dessinent d'un point de vue techno sur les années à venir, quels sont les défis qui sont face à toi? Est-ce que tu peux nous en parler? Et peut-être l'enjeu aussi de l'internationalisation? Puisqu'il y a il y a une accélération forcément avec l'arrivée de Baldaton au capital, avec des enjeux de comment devenir une plateforme potentiellement pan-européenne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Bien sûr. Donc effectivement, en ce moment, les grands challenges sont quasiment tous autour de la data, que ça soit pour servir de l'international, comme je te disais, ou pour apporter plus de valeur via de l'international, de la boîte. C'est un sujet qui explose en ce moment, comme tu le sais.
Ouais.
Et donc c'est comment on trouve des tweaks pour aller plus vite et plus loin avec de l'IA et de la boîte. Et surtout, moi, mon gros enjeu en ce moment, c'est vraiment apporter, décupler les capacités opérationnelles. On a des gros sujets sur la partie travail de données, enrichissement de données pour les sales, pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces là-dessus, grâce à la data. Et donc, c'est vraiment dans les gros jeux, sur le market, sur l'acquisition. Je pense qu'on a aussi énormément de valeur à aller chercher sur le tracking de l'efficacité, sur sur l'apport de toutes ces technologies, sur la gestion des notifications, enfin, voilà, sur comment être meilleur opérationnellement.
Et là-dessus aussi, comment tu te benchmarks avec les autres? Tu regardes, je sais pas mal, le portefeuille de tous des VC avec et tu fais des calls sur OK, c'est quoi vos stacks techniques, d'un point de vue très pragmatique. Comment tu te mouilles peut-être avec Jean, comment tu te challenges sur ces choix-là pour être
C'est exactement ça. Par exemple, pour monter l'équipe data, bah pareil, j'avais essayé de trouver tous les head of data, VP data que je pouvais trouver. À un moment donné, on cherchait un VP data, donc j'avais fait plein d'interviews de profils super high level, laisser toujours confronter les idées. Nous, on a des solutions à nous. Voilà comment on veut implémenter la data chez Voyage. Et en fait, c'est comment tu confrontes ça aux différentes équipes qu'on fait. Il y a certaines choses que tu confirmes, il y a des choses que tu infirmes. Et donc c'est vraiment toujours le même mode opératoire pour monter plus nouveau, c'est comprendre comment ça fonctionne, se confronter à ceux qui l'ont déjà fait bien et après délivrer.
Ok. Et donc sur les enjeux, donc il y a le sujet de data, est-ce qu'il y a d'autres sujets hein, qui se profilent et dans lesquels tu dis ça va être un morceau?
Ouais, sur les morceaux. Alors l'internationalisation en tant que telle, je suis pas trop inquiet parce que justement on a déjà une très bonne tech qui est très modulaire. On a déjà commencé à intégrer tous les outils de traduction et de ça. Pour le coup, ça, c'est pas le morceau qui me fait peur du tout. Par contre, un des morceaux, je pense, qui est hyper excitant, un des grands enjeux, ça va être comment on fait de la mise en relation à une échelle européenne ou pan-européenne. Ça, c'est aujourd'hui, tu fais X milliers de connexions par mois. Demain, qu'est-ce qui se passe si tu dois en faire 80 000 par jour? Et en fait, ça, ce sont des challenges techniques qui sont hyper intéressants. Aujourd'hui, tu as un besoin qui est exprimé, on va essayer de trouver la bonne personne. Et ben demain, c'est peut-être, OK, on va prendre 100 besoins en parallèle qui sont exprimés à l'instant T. Quelle est la meilleure combinaison de connexions qui est potentiellement faisable pour avoir les meilleures expériences pour les deux parties de la plateforme? Ça, technologiquement, ça peut être des changements de langage sur aujourd'hui la manière dont sont écrits nos algorithmes. C'est des changements infrastructurels pour avoir beaucoup plus de puissance. Donc voilà, aujourd'hui, nous, c'est plutôt les enjeux sur lesquels on se concentre parce que ça va être la clé de la réussite, soit sur une série C ou une série B, tu vas devoir gérer beaucoup plus de mal.
Sur la partie M&A, parce que je pense que
Ouais.
c'est aussi une manière de croître, j'imagine que tu dois être sollicité sur des cibles. Est-ce que c'est des sujets qui potentiellement te font peur, récupérer une stack technique, récupérer des équipes, c'est des sujets qui va être ça aussi ça peut être un défi en tant que tel.
Exactement. Ce que je connais pas en général me fait pas peur, ça m'excite. Et c'est toujours comment je vais pouvoir gérer ce sujet-là. Donc, tu as tout à fait raison. J'ai beaucoup travaillé sur cette partie-là. Je m'en suis servi aussi quand j'ai fait toutes mes interviews de CTO. J'ai eu la chance de discuter avec des CTO qui étaient en plein M&A avec des équipes. Et donc, ça a été vraiment, regarde, on a présenté d'ailleurs à Bellertum pendant le process de levée. C'est en cas de M&A, voilà notre stratégie, voilà comment on fait étape par étape. Et donc, en fait, j'ai déjà commencé à discuter avec certaines boîtes dans le cadre, comme tu disais, d'identification. Et donc, les process sont assez simples, en tout cas sur le papier. C'est identifier si tu vas récupérer de la tech et du produit, ou si tu vas récupérer une marque, du business, et pas forcément de la tech produit. Et après, les deux grands enjeux, c'est migration technique et gérer les personnes. Qui veut rester, qui veut pas rester, est-ce que tu as des personnes qui vont devoir changer de techno et comment tu les gères? Et donc ça, je l'ai pas encore fait, donc c'est peut-être une vision théorique idéale, mais en tout cas, c'est un challenge sur lequel j'ai vraiment envie d'aller et sur lequel je pense qu'on peut être très bon. Parce que, encore une fois, grâce à nos archis microservices, on peut intégrer assez facilement n'importe quel type de technologie à côté de nous. Et d'un point de vue humain, je pense que c'est des challenges de managers qui sont incroyables, quoi.
Super. Bon, bah, écoute, je pense que Brigade est entre de bonnes mains. C'était un excellent choix de Jean et de Flo de te confier les rênes de ce poste. Je pense que je te souhaite plein de bonnes choses. Alors, toi, en tant que futur nouveau papa, déjà, et puis d'un point de vue pro, bah, de réussir tous ces challenges et de continuer à grandir chez Brigade.
Merci beaucoup, Karen. C'est vraiment sympa.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao!